9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Si je vous dis que nous sommes à Londres au mois de juin 1940, voyez un peu dans quel contexte s'inscrit notre histoire. La capitale britannique, on l'oublie parfois, est à l'époque complètement sous la menace de l'aviation allemande. Et on est au milieu des rumeurs et de l'incertitude. Et c'est dans ce climat très tendu que se pose un avion sur le tarmac de Londres. On descend le vice-amiral Émile Muselier. Alors lui revient de loin, hein. Il a refusé l'idée de la défaite, il a quitté Paris qui était déclarée ville ouverte à l'époque et il s'est rendu droit à Marseille. À Marseille, il a réussi à s'embarquer sur un navire anglais et après une traversée périlleuse au cours de laquelle il a rallié un peu de monde à sa cause, il a atteint Gibraltar et c'est à Gibraltar qu'il a pu attraper un avion pour Londres. Et là, il va se présenter, bien sûr, dans les bureaux de ce général de Gaulle dont on parle beaucoup. Le général de Gaulle qui est arrivé une quinzaine de jours plus tôt en Angleterre, aux côtés du général Spears, après avoir quitté Bordeaux et le nouveau gouvernement de Pétain. Quelques jours avant cette rencontre avec Muselier, le général de Gaulle a été reconnu, adoubé, devrais-je dire, par Churchill comme le chef de la France libre. Et il a eu, vous le savez, la possibilité de s'exprimer sur les ondes de la BBC, le célèbre appel du 18 juin. Et ça a continué dans les jours qui ont suivi. Bref, en ce tout début d'été 1940, la France libre n'est pas encore grand-chose. Elle n'est constituée que de quelques centaines d'hommes et de femmes qui, chaque jour, viennent s'installer, rallient Londres, si je puis dire, pour proposer leur service à l'homme du 18 juin. Et le vice-amiral Muselier est un de ces volontaires. Il est, entre parenthèses, ça n'est pas négligeable, le premier officier général qui rejoigne le général de Gaulle. On est donc le 30 juin 1940. Dès le lendemain, il est nommé commandant des forces maritimes françaises libres et très vite va se poser la question cruciale de l'identification des Français libres, de leurs moyens et de leurs forces, certes, mais aussi de leurs symboles pour les distinguer clairement des hommes de Vichy. Et ce même jour, donc ce 30 juin 1940, en présence du capitaine de corvette Thierry d'Argentlieu, dont on aura l'occasion de reparler dans l'histoire, mais que ça nous entraînerait ailleurs, Muselier propose à de Gaulle d'adopter comme emblème une croix à double traverse, la croix de Lorraine. Et le général va accepter cette idée d'enthousiasme. Il est très probable qu'il y voit un clin d'œil à l'insigne du 507e régiment de chars qu'il avait commandé entre 37 et 39, mais aussi et surtout, il y voit un symbole dont vous allez bientôt pouvoir mesurer la portée. En ce début d'été 40, alors que tout semble perdu pour la France occupée, un symbole vient donc de naître, cette croix de Lorraine qui désormais va incarner l'espoir d'une libération à venir, va incarner l'esprit, l'idée, la pratique de la résistance, l'espoir aussi d'une souveraineté retrouvée.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, pour comprendre l'origine de cette croix un petit peu particulière qui est tellement associée à la France libre et au général de Gaulle et qui se démarque par ces deux traverses, une plus petite que l'autre, eh bien, je vous propose de revenir tout simplement 2000 ans en arrière à Jérusalem où a été crucifié Jésus-Christ. Ça va nous permettre de rouvrir le Nouveau Testament. C'est le seul texte disponible sur le sujet. Voici ce que dit l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19. Je cite. Alors il leur livra Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent, portant sa croix. Il arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Et Pilate a répondu, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Eh bien, la deuxième traverse de la croix de Lorraine, c'est une figuration de ce fameux écriteau où figure l'inscription latine « inri », que l'on retrouve dans toutes les représentations, enfin en tout cas dans beaucoup de représentations de la Passion, c'est l'abréviation de Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et c'est cela donc que symbolise cette traverse supérieure de la croix de Lorraine. Après la crucifixion, l'histoire de la croix où Jésus a été supplicié va se perdre. Il faut attendre l'an 326, donc plus de 3 siècles, pour retrouver la trace de cette croix après tout cet oubli. Le récit de la découverte de la croix repose sur 2 figures historiques majeures, puisqu'il s'agit de l'impératrice Hélène et de son fils Constantin, le premier empereur romain chrétien. Les auteurs antiques racontent comment la pieuse Hélène, au cours d'un pèlerinage qu'elle fait donc en Orient, se retrouve sur le lieu supposé de la Passion du Christ. Elle ordonne la destruction d'un temple païen qui avait été érigé là et elle fait entreprendre des fouilles. Et on va trouver 3 croix sur ce site du Golgotha, dont celle de Jésus identifiée par le morceau de bois sur lequel figurait l'inscription laissée par Pilate. Et l'impératrice Hélène va donc prendre possession de la relique et elle va diviser la croix en de nombreux fragments. Elle en envoie à Rome, à Constantinople, elle en conserve une grande partie à Jérusalem d'ailleurs. Vous vous en doutez, cette découverte miraculeuse a aussi une signification politique, puisqu'on est dans ce monde romain qui est en train de devenir chrétien. C'est une aubaine pour Constantin qui va utiliser la croix pour asseoir son pouvoir. Est-ce que c'était vraiment la croix de Jésus? Ça nous entraînerait loin. En tout cas, dès la fin du IVe siècle, des récits attestent de la vénération de morceaux de la vraie croix dans tout l'Empire romain. Jean Chrysostome, père de l'Église, rapporte qu'en 388, les chrétiens se pressent pour adorer le bois de la croix et pour en acquérir des petits morceaux, des petits bouts, des petites parcelles qu'ils font monter en métaux précieux, ornés de pierreries, etc. Et par la suite, le morceau qui va devenir la vraie croix est emporté dans le tumulte incessant de l'histoire, enlevé par les Perses en 614, récupéré par les Byzantins en 628. Il retourne finalement à Jérusalem pour devenir symbole des croisés lors de la prise de la ville sainte pendant la première croisade. Et après la défaite des croisés à Hattin face à Saladin, on est là en 1187, eh bien, la trace disparaît définitivement. Et comme on l'a vu, cette croix va donner naissance à une multitude de reliques, authentiques ou non, dispersées dans tout le monde chrétien, de Jérusalem à Londres, en passant par Constantinople, par Paris bien sûr, et d'Enzé sous le Lude, en Anjou. La première partie du Gloria de Francis Poulenc par le chœur de Westminster et l'orchestre philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein.
Vous écoutez Radio Classique.
1240, oui, c'est en cette année 1240 sur l'île de Crète qu'on retrouve la trace de certains fragments de la croix de Jésus. Le chevalier Jean d'Aluy, qui était parti guerroyer en Terre Sainte, il était originaire d'Anjou, acquiert auprès d'un évêque crétois un crucifix à double traverse, entièrement façonné à partir du bois pris sur la vraie croix. C'est un morceau de la vraie croix dont on a fait un crucifix, si vous voulez. Il rentre en Anjou, Jean d'Aluy, il cède cette très précieuse relique au moine cistercien de l'abbaye de la Boissière, à Denzé sous le Lude, donc, et c'est à partir de ce moment qu'on parle de la vraie croix qui s'enracine donc en Anjou. En 1359, un peu plus d'un siècle plus tard, on est en pleine guerre de Cent Ans, hein, les chevauchées du prince noir ravagent depuis des années les campagnes du sud-ouest et en Anjou, le duc Louis Ier, qui est tout particulièrement attaché à cette relique rapportée par le chevalier d'Aluy à l'abbaye de la Boissière, ce chevalier va décider de récupérer la relique pour la mettre à l'abri des pillards. C'est le duc d'Anjou, hein, c'est Louis Ier qui fait ça. C'est à ce moment-là que naît entre eux, le duc d'Anjou et cette relique, une histoire de dévotion très importante. Il faut vous dire que dès 1337, déjà, il avait pris soin de parer ce crucifix d'une très somptueuse monture d'orfèvrerie, sertie de gemmes, de perles, et ce n'est pas tout. Suivant l'exemple de l'ordre de l'Étoile fondé par son père, le roi Jean II, Louis d'Anjou avait aussi créé, en l'honneur de la relique, un ordre de chevalerie, l'ordre de la vraie croix. Et par la suite, il va également adopter le symbole de cette croix à deux travers, à titre personnel, donc il l'a fait figurer sur son trône, son épée, même dans sa signature, ce qui d'une certaine manière consolide son autorité par le prestige de la relique elle-même. Désormais, c'est plus seulement l'objet qui va se transmettre au sein de la maison d'Anjou, mais c'est tout le symbole. Et à la suite de Louis Ier, son fils va perpétuer la dévotion et faire bâtir pour la relique une chapelle au château d'Angers où une clé de voûte arbore la croix à double traverse. Et en abritant une relique de la Passion du Christ, on peut parler d'une sainte chapelle. C'est comme ça qu'on va appeler la chapelle d'Angers. Et un siècle plus tard, c'est René d'Anjou que vous connaissez, le roi René. C'est lui qui va hériter la croix à double traverse. Et comme son père Louis II et son grand-père Louis Ier, il adopte l'emblème sacré. En 1431, par son mariage avec Isabelle de Lorraine, il devient duc de Lorraine. La relique reste en Anjou, mais le symbole arrive en Lorraine. Voyez comment on passe de l'Anjou à la Lorraine. Et c'est comme ça que le symbole va entrer dans l'histoire en 1477, au moment de la bataille de Nancy. René II, c'est le petit-fils de René d'Anjou, brandit un étendard orné de la croix à double traverse. Il est là, sous les murs de la ville, en train d'affronter Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Vainqueur dans sa lutte pour libérer la Lorraine de la domination bourguignonne, on peut dire que René d'Anjou, René II, a fait de la croix l'emblème de la région. C'est maintenant la croix de Lorraine. Et alors, beaucoup plus tard, en 1871, c'est ce même symbole qui sera de nouveau brandi en Lorraine comme signe de résistance à l'occupant prussien. Déjà, peut-on dire, déjà. L'ouverture de la Marguerite d'Anjou de Giacomo Meyerbeer par l'Orchestre national d'Île-de-France sous la direction d'Enrique Mazzola.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La réutilisation de la Croix de Lorraine par la France libre va participer de cette transition de résistance à l'occupant. Comprenez pourquoi le général de Gaulle a dit oui tout de suite, évidemment. Dès le début, explique l'amiral Muselier dans une conférence qu'il a donnée à Londres à l'automne 1941, il m'a paru nécessaire de différencier de façon apparente les bâtiments de guerre de la France libre de ceux restés fidèles au gouvernement du maréchal Pétain. Pourquoi ai-je choisi la Croix de Lorraine ? Parce qu'il fallait un emblème en opposition à la croix gammée et parce que j'ai voulu penser à mon père qui était lorrain. Chacun a une bonne raison d'avoir recours à cette croix de Lorraine née en Anjou. À partir du décret du 2 juillet 40, les bâtiments de guerre de la France libre, donc, mais aussi de commerce d'ailleurs, vont recevoir l'ordre de porter à la proue un pavillon carré bleu orné en son centre de la croix de Lorraine en rouge. Les appareils des forces aériennes françaises libres devaient également porter, à côté de la cocarde réglementaire, une croix de Lorraine inscrite dans un cercle. Et de Gaulle sera le premier à épingler cette croix à son uniforme. C'est le parachutage de tracts à partir de 1941 qui va contribuer à diffuser dans la France occupée ce symbole de la croix de Lorraine, symbole de lutte, d'espoir. Je vous l'ai dit, cette croix à deux branches, vous savez pourquoi, est souvent associée à la lettre V de victoire, bien sûr, et qui va fleurir partout sur les murs. Des journaux clandestins adoptent la croix comme emblème, des groupes de résistance se rassemblent autour de la croix de Lorraine, et ça va devenir bien sûr le symbole d'une unification de la résistance tant extérieure qu'intérieure. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces utilisations de la Croix de Lorraine et de ses évolutions au musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides, musée dont les collections regorgent de ces reliques de guerre, si je puis dire. Et tout ça est très bien, magnifiquement même, documenté dans un bulletin qui a été publié là très récemment par la Société des Amis du musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides. Alors, on peut se poser la question du succès universel de la Croix de Lorraine, signe de ralliement idéal. Un succès qui s'explique peut-être tout simplement par son graphisme extrêmement simple. Hein. Et la BBC d'ailleurs encourage les Français à l'utiliser. Quel insigne est plus facile à mémoriser et bientôt à dessiner clandestinement, furtivement, sur quelques surfaces propices, trois coups tout simples d'un bâton de craie, un vertical et deux en travers, nous dit Maurice Agulon. L'adoption de la Croix de Lorraine a un double objet, se démarquer du drapeau tricolore qui reste à l'époque toujours l'emblème du régime de Vichy, hein, et puis permettre aux Français d'opposer à la croix gammée nazie, la svastika, une croix enracinée dans l'histoire de l'Europe chrétienne. Et pour Thierry d'Argentlieu, officier de la marine et religieux, prototype du moine guerrier, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de doute, la guerre contre l'Allemagne nazie, c'est une nouvelle croisade en lutte contre la croix ennemie à la croix du Christ, selon la formule même de Pie XII. Les Français libres, ralliés à la croix du général de Gaulle, vont donc se réclamer de cette nouvelle croisade. Et de Gaulle a même songé à appeler croisée de la libération les titulaires de l'ordre qui il a finalement décidé de baptiser Compagnon.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, et la relique de la vraie croix, me direz-vous, elle n'a jamais quitté l'Anjou. Hein. En 1790, elle est achetée par les sœurs de la Congrégation des Filles du Cœur de Marie, qui se trouve à Baugé en Anjou, très jolie petite ville de Baugé en Anjou, et à quelques kilomètres seulement de l'abbaye où était gardée pendant si longtemps la relique ornée et adornée par le duc Louis Ier. Cette croix, elle est présentée au général de Gaulle, hein, qui a pu voir en quelque sorte l'origine même du symbole associé à son nom, et elle sera classée au titre des monuments historiques le 15 juin 1976. Cette croix d'Anjou, c'est la deuxième plus grande relique de la vraie croix au monde, après bien sûr celle qui est conservée à Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, il faut vous dire qu'avec le soutien de l'évêque d'Angers, cette congrégation des filles du cœur de Marie, donc à Beaugés, a bien l'intention d'établir un sanctuaire au sein de la chapelle où est conservée la relique. Alors, jusqu'à une époque extrêmement récente, il fallait demander rendez-vous, on vous ouvrait une sorte de coffre-fort, vous voyez derrière une grosse vitre cette croix absolument extraordinaire. Eh bien, il va y avoir un sanctuaire maintenant au sein de la chapelle pour que chacun puisse venir admirer cette croix à l'histoire millénaire. Alors, si vous souhaitez devenir bienfaiteur de la croix de Lorraine originelle, si je puis dire, eh bien, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. La générosité sera la bienvenue.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Gaspard Lemarinier. J'imagine que Christian Morin va faire un petit voyage jusqu'à Beaugé pour voir cette croix d'Anjou, qui est entre parenthèses, mais je le redis, un joyau extraordinaire. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. L'histoire de la croix de Lorraine a été évoquée. 14h, une autre histoire à découvrir, comme chaque jour. Et puis permettez-moi à vous tous de vous souhaiter une bonne semaine, ainsi qu'à Franck d'ailleurs.